Restons debout pour la prière. Ô Dieu, notre Père, nous te remercions aussi ce soir du privilège que nous avons d'être réunis en ton nom. Tu as promis d'exaucer nos prières et de guérir le pays. Car s'il existe un pays qui ait besoin de ta guérison, alors c'est bien celui dans lequel nous habitons. Nous te prions de nous envoyer un réveil comme au premier temps. Nous t'en remercions. Tu nous as donné suffisamment de vêtements et de nourriture. Nous désirons ardemment entendre la parole du Seigneur. Tu as dit qu'il viendrait une famine et que les gens iraient de l'est vers l'ouest et d'une côte vers une autre côte pour entendre la parole de Dieu. Ô Dieu, oins tes serviteurs tout à nouveau, afin que nous allions dans le champ avec ta parole, que nous semions la véritable semence. Car s'il n'y a pas d'ensemencement, il n'y aura pas non plus de récolte. Donne-nous la force en ces jours, afin que nous puissions apporter ce message aux millions de mourants spirituels. Nous le prions en ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est en ordre. Pour tous ces mouchoirs que vous déposez ici, nous prierons sur eux. Dieu a beaucoup béni ce moyen. C'est quelque chose de simple et c'est cependant riche en bénédictions. Au milieu de nous ce soir, il y a un jeune homme de l'Afrique du Sud qui se trouvait à Cape Town quand j'ai prié sur 8 gros sacs de courrier. Je n'avais même pas le temps de prier pour chacun séparément. J'ai donc prié sur tous à la fois. Alors, les journaux ont publié que Frère Branham croit même à la prière sur des lettres et sur du courrier. Mais l'envoi de mouchoirs est selon les Saintes Écritures. Ce soir, je vous laisserai partir plus tôt, car je regrette que vous ayez manqué vos bus hier soir. Mais si Dieu le veut, je parlerai demain soir sur le sujet « La main qui écrit à la paroi » et vendredi soir sur « L'Église passera-t-elle par la tribulation ?» Oui ou non. Et samedi soir, si Dieu le veut, je parlerai sur ce sujet « L'aigle qui fait sortir les aiglons et plane au-dessus d'eux ». Vendredi soir, j'irai chercher ma femme et mes enfants pour la réunion, car ce n'est pas très loin. Je me prépare à partir pour l'Afrique. Aujourd'hui, j'étais accablé. 5 nations m'écrivent en même temps d'aller chez elles pour leur apporter la parole de Dieu. Il y a encore peu de temps, je me trouvais dans l'une de ces nations. Le matin, vers 9 heures, un enfant mourut, et le soir, vers 22 heures, Dieu m'a donné une vision sur l'estrade et cet enfant est ressuscité des morts. Le lendemain matin, tous les journaux le publièrent. Et le lendemain, en un seul soir, 20 000 personnes consacrèrent leur vie à Dieu. Frère Tommy, étiez-vous présent à Durban en Afrique du Sud lorsque 30 000 personnes acceptèrent Jésus-Christ en un seul jour? 30 000 indigènes acceptèrent Christ tout d'un coup. Oh, Dieu est si bon! Aujourd'hui, j'aimerais prendre un texte que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le thème en est « Unis sous une seule tête ». Pour cela, j'aimerais lire seulement une partie du verset 6 au chapitre 11 de la Genèse. Voici, ils forment un seul peuple. Que Dieu nous donne la bénédiction pour la lecture de sa parole. Ils sont un peuple. Genèse, désignation du premier livre de Moïse, signifie commencement. Tout ce que nous voyons a eu un commencement. Et ce commencement était déjà dans la Genèse. La vie ainsi que la mort commencent là. Toutes les pensées justes et fausses commencent dans la Genèse. Si vous lisez l'Écriture attentivement, vous trouverez également que tout culte, toute vénération, toutes les choses déterminées qui sont là aujourd'hui ont eu leur début en ce temps-là. Tout débute dans la Genèse, donc au commencement. Et ce vieil et méchant esprit qui commença déjà là à agir parmi les hommes, nous le voyons agir encore aujourd'hui. Tous ces cultes, oh, j'y pense encore. Alors que j'étais jeune, il y avait un homme du nom de Charlie Barlingham. Il avait une épaule tombante, un air terrible. Mais savez-vous, aujourd'hui, il est transformé. Ils ne portent plus ce vieux paletot brun. Ils ne traînent plus au coin d'une rue, aux abords de la lumière rouge. Non, aujourd'hui, ils pénètrent dans chaque maison bien habillés et en ordre. La Bible dit, Dieu le dit dans la Bible, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Et Jésus nous le dit dans l'évangile de Matthieu, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Vous pouvez remarquer que l'Esprit de Dieu voulait atteindre les hommes, non pas que ceux-ci étaient préoccupés à reconnaître l'Esprit de Dieu. C'est un parallèle avec nos jours. L'Esprit de Dieu s'efforce d'atteindre les hommes. Et peut-être que Dieu pense comme autrefois qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Oh, comme l'homme est rebelle envers Dieu dans toutes ses voies. Nous voyons dans le texte de ce soir que des hommes s'étaient unis. La civilisation a commencé à l'est et va vers l'ouest. Ils y sont allés avec le lever du soleil et ils vont vers l'ouest. J'aimerais parler une fois sur le thème suivant. Qu'arrive-t-il quand l'est et l'ouest se rencontrent? Et nous sommes presque en ce temps-là. Ils avancent, se lèvent comme le soleil et s'éloignent de nouveau. Les hommes ont toujours progressé en connaissance, de sorte que la roue est sur le point de tourner en arrière. Et ces personnes, dans le texte que nous venons de lire, s'étaient réunies, c'est la vérité, mais ils étaient unis sous une fausse direction, celle d'un homme. Mais Dieu veut nous unir en lui-même. Il veut que nous soyons un, mais en tant que seul et unique, il veut être un avec nous. Mais l'homme veut être le conducteur de l'autre. C'est remarquable, nous pouvons le constater, comme les hommes voudraient être un. La raison pour laquelle ils désirent être un, c'est que Dieu les a destinés à ce but. Dieu a créé les hommes pour qu'ils puissent être un, pour qu'ils travaillent et vivent ensemble. C'est ainsi que Dieu a créé les hommes. Mais l'homme veut toujours venir à bout de ses propres idées. Il veut exécuter ce que Dieu n'a pas décidé dans son plan. Les hommes veulent faire et accomplir leur propre plan. C'est la nature déchue de l'être humain. C'était également ainsi au Jardin d'Éden, quand Dieu avait dit, « Au moment où vous prendrez le fruit défendu, la misère et la mort vont faire leur entrée. » Et à l'instant de la transgression, ils se séparèrent de Dieu, de leur Sauveur. C'est ainsi encore aujourd'hui. Des hommes cherchent encore leur vie par l'arbre de la connaissance. Pourquoi y attachons-nous un tel prix pour atteindre, pour découvrir, pour rechercher comment nous pouvons nous préserver nous-mêmes? Et toute la connaissance que nous atteignons, cela nous éloigne toujours davantage de Dieu. Il existe un seul chemin de sécurité devant Dieu, et c'est le retour à l'arbre de la vie. La connaissance n'est même pas encore en vue. Retour vers l'arbre de la vie. Si les hommes mangent l'un des arbres, ils mourront, tandis que s'ils mangent l'autre arbre, ils vivront. Mais la nature de l'homme est telle qu'il veut faire quelque chose pour son salut. Mais personne ne peut y ajouter quelque chose. Il y a peu de temps, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, « J'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. » Alors je lui ai dit, « Je ne voudrais pas être désagréable envers vous, mais je dois vous dire que ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. » Nous le voyons dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Adam qui était à la recherche de Dieu, mais c'est Dieu qui était en train de chercher et d'appeler Adam. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Personne ne peut venir à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire d'abord. » Alors, vous cherchez à savoir ce qui vous attire, mais c'est Dieu qui doit vous attirer en premier. Comme cela est vrai. Nous voyons dans notre texte que les hommes s'étaient unis sous la direction d'un homme. Et quand c'est ainsi, ils veulent atteindre quelque chose. Nimrod leur avait construit une tour. Il est vraiment étrange de penser que toutes les choses que le diable possède, il a volé à Dieu le droit de les copier. Car Satan ne peut pas créer, n'étant pas lui-même un créateur. Il est celui qui détruit, qui fausse ce que Dieu a créé. C'est pourquoi aucun homme connaissant Dieu et la Bible ne peut dire que le diable peut guérir. Parce que la guérison, c'est une création. Le diable ne peut pas créer. Sinon, il se serait fait un monde et des individus, mais il ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. Toute chose que vous voyez faussée, faites donc le contraire, et ce sera juste. Car injustice veut dire justice pervertie. Voyez-vous, Tout ce que l'homme fait en dehors du plan de Dieu est faux, même si cela a une belle apparence. Dieu a donné à l'homme son plan, son idée, mais les hommes veulent toujours leur propre plan. Israël a fait une grande faute quand le sacrifice et le libérateur Moïse étaient déjà préparés par grâce. Ils voulurent encore faire quelque chose par eux-mêmes. Ils demandèrent une loi. Dieu savait qu'ils ne l'observeraient pas. Et tout retombe sur lui qui fait tout à merveille et qui donne tout dans un but précis. Cependant, Satan veut toujours se servir de la tête des hommes, donc de leur intelligence. Mais Dieu a choisi le cœur. Aujourd'hui, l'on dit, nous allons choisir le prédicateur qui va venir dans notre église. Un homme de bonne éducation, qui a fait de bonnes études, de hautes études. Mais moi, je préfère un homme qui connaît Dieu et sa parole, plutôt que n'importe quel homme considéré. Mais voyez-vous, les gens regardent au visible. Ce fut la même chose avec Ève. Ève regarda. Et tout ce que c'est la mort revêtue, c'est la chute recouverte d'une crème. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes femmes dans les rues qui fument et qui font beaucoup de choses indécentes. Elles veulent être populaires, elles désirent paraître. Mais derrière cela se trouve le même mensonge, le même menteur qui fait tout paraître beau à l'extérieur, bien que ce soit la mort décorée à l'extérieur. Oh, bien des jeunes dames de joli aspect s'habillent de vêtements indécents pour attirer les regards des hommes. Elles ne savent pas que c'est la mort sous la forme de la beauté. Pensez à cela. La beauté est séduisante. C'était l'idée de Satan d'avoir un royaume plus beau que celui de Michaël. La beauté est à l'origine de la chute. Et depuis, Satan s'en est toujours servi. Si aujourd'hui nous voyons que le royaume du diable est si bien décoré et de belles apparences, pensez aussi à ceci. Le diable est très religieux. Beaucoup de gens se choisissent une église où les sièges sont bien rembourrés afin de se sentir à l'aise. Et le prédicateur peut tout au plus prêcher un quart d'heure qu'il dorme déjà. Cela se peut que cette église ait des orgues $1 million et aussi peut-être un pasteur en longue robe boutonnée dans le dos. Mais un véritable enfant de Dieu ne recherche pas ces choses. Même s'il fallait aller au coin d'une rue ou dans une vieille remise pour entendre la vraie parole de Dieu prêchée sous la démonstration du Saint-Esprit, il irait. Les hommes se sont organisés eux-mêmes. Comme il fait bon entendre dire parfois, je suis un baptiste, je suis un méthodiste. Mes frères, je ne veux pas vous faire de la peine, je veux seulement vous dire la vérité. Si donc vous deviez dire que vous êtes des pentecôtistes, cela ne conviendrait même pas à votre esprit. Car, vous le dites, cela tue l'esprit. Tout esprit qui peut être détruit par la Pentecôte, l'expérience de la Pentecôte, doit être détruit. La Pentecôte n'est pas une organisation. C'est une expérience qui vient vers tous ceux qui la désirent ardemment. Je sais que l'on en a fait une organisation, mais pas l'expérience de la Pentecôte. Que nous soyons méthodistes, baptistes ou autres, nous pouvons avoir cette expérience. Ce sont les hommes qui ont organisé cela. Mais regardez, chaque organisation veut être plus grande que l'autre. Ne voyez-vous pas que tout cela est du diable? Une petite fille, elle en avait l'air, était devenue esclave de l'alcool. Elle donna son témoignage dans l'une des plus grandes églises d'Amérique. Les gens pleuraient, car 5 des meilleurs médecins avaient déclaré « condamné, sans espoir, passion de l'alcool et empoisonnement ». Alors qu'elle fut conduite sur l'estrade, le Saint-Esprit a révélé cela, et le démon fut chassé hors de cette fille qui fut délivrée à l'instant même. Aujourd'hui, elle vit pour Dieu et elle donna son témoignage. Alors, quelqu'un parmi les auditeurs a dit, « C'est merveilleux d'entendre cela, mais elle appartenait à une église de Pentecôte. » Oh, vous ne pouvez plus polir ces choses. Cela m'est égal qu'il est tel ou tel homme ou ce qu'il fait. S'il est avec Dieu, alors je suis avec lui. Cela est juste. Et si Dieu agit par son esprit, ses enfants le suivent. Ceci est enregistré. Non, je ne suis pas énervé et je me sens vraiment bien dans le Seigneur. C'est quelque chose qui vient sur moi. Pas seulement sur moi, mais en moi. Tout vient en mouvement par cette onction. Beaucoup agissent avec leur tête et ils voient avec leurs yeux. Voyez, le diable a dit à la femme, l'arbre est agréable à voir. Laissez-moi juste m'arrêter un petit moment ici. Le diable peut faire que vous employiez votre raisonnement pour réfléchir et ruminer à des choses. Mais Dieu emploie le cœur, et la foi est dans le cœur. Pendant que le diable endoctrine votre tête, Dieu agit dans votre cœur. La Bible dit, comme une personne est et pense dans son cœur, ainsi est-elle. Il y a quelques années de cela, des savants ont déclaré que Dieu devait avoir fait une erreur en disant qu'il voulait habiter dans le cœur de l'homme. Mais quand Dieu dit cœur, il pense cœur. Et s'il disait tête, il penserait tête. Et quelques années en arrière, je me trouvais à Chicago. Là, j'ai lu le titre d'un quotidien. Les savants ont découvert dans le cœur humain une partie qui n'est même pas baignée par le sang, l'habitation de l'âme. Vous allez découvrir que Dieu a toujours raison dans ce qu'il dit. L'homme pense avec sa tête, mais il croit avec son cœur. Ce qu'il voit de ses yeux, il ne pourrait peut-être jamais comprendre que ce soit possible. Mais avec son cœur, il peut croire des choses que Dieu a promises et qu'il ne pourrait pas accepter avec sa raison. Il y a tellement de gens qui renient les choses de Dieu parce qu'ils ne les comprennent pas avec leur tête. S'ils voulaient au contraire le croire du cœur. Sortons de notre intelligence et entrons dans les réalités de notre cœur, car nous croyons avec le cœur. Avec la pensée, vous pouvez combattre certaines choses, mais avec le cœur, vous croyez la parole de Dieu. De nos jours, nous sommes tous orientés scientifiquement. Tout doit être prouvé. Autrefois, quand quelqu'un disait « Dieu a fait un miracle », les autres personnes disaient « Merci Seigneur ». Mais aujourd'hui, l'on dit « Cela doit d'abord être prouvé scientifiquement avant que nous puissions le croire. Oh, si c'est par la science, ce n'est donc plus la foi. Que serait devenu Moïse si au lieu de se tenir dans une sainte crainte devant le buisson ardent, il avait dit, « Viens, je vais voir ce que c'est. Je vais voir quel feu c'est, quel est son effet, ce qui va rester comme cendre. Et puis ensuite, je porterai ces restes dans un laboratoire juste pour les faire examiner. » Si Moïse avait eu de telles pensées, jamais Dieu ne se serait révélé à lui. Mais qu'est-il arrivé? Moïse se tenait là, dans une sainte crainte devant Dieu, et il entendit la voix, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il se peut qu'il y ait ici des personnes qui aimeraient trouver quelque chose à critiquer. Le prédicateur parle trop longtemps, les gens sont trop bruyants, mais si vous ôtez vos souliers et que vos cœurs sont ouverts devant Dieu, alors vous entendrez la voix « Je suis la résurrection et la vie ». Peut-être que quelqu'un se trouve ici uniquement pour voir combien de personnes de son assemblée sont venues afin de pouvoir le rapporter à son prédicateur. Voyez, c'est ainsi que vous continuez toujours avec votre tête. Mais Dieu agit dans le cœur, et l'endroit que Dieu a choisi dans le cœur est destiné pour y habiter, doit être préparé. Votre corps est à votre disposition. Quant à votre cœur, Dieu se l'est choisi, afin de pouvoir y habiter et vous conduire. Oh, loué soit son saint nom. Oh, si nous pouvions laisser de côté notre raisonnement et croire Dieu de tout notre cœur. Mais que font les hommes? Ils s'écoutent les uns les autres, ils se consultent, le diable parle par eux, et ils n'écoutent pas la voix de la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent plus croire à la guérison divine, bien que la parole de Dieu dise « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Mais les hommes qui sont nés de Dieu croient Dieu, parce que Dieu l'a dit ainsi. Lorsqu'Abraham reçut la promesse qu'il aurait un fils de Sarah, il avait 75 ans, et Sarah en avait 65. Ils ont fait des préparatifs pour leur bébé. Que pensez-vous que les médecins auraient dit de cela? Naturellement, ils auraient attesté que, scientifiquement, ils avaient depuis longtemps dépassé l'âge et qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Mais Abraham regardait à celui qui était invisible, et les choses que Dieu lui avait promises, il les considérait comme si elles étaient déjà là. Il croyait Dieu. Bien des années passaient. Il a certainement souvent demandé à Sarah, « Sarah, est-ce que tu sens déjà quelque chose ?» Elle aura répondu, Non, là-dessus Abraham aura certainement dit, merci au Dieu, nous recevrons ce fils parce que Dieu l'a dit. Ce n'était pas un raisonnement de sa tête, mais il croyait du cœur. Et si Dieu est dans un cœur, Dieu lui révélera sa parole et il lui montrera les choses qu'il produit de sa parole. Si nous sommes en Christ, nous sommes, selon la promesse, la semence d'Abraham. Ne pouvons-nous pas croire Dieu pendant 25 minutes? Abraham a cru pendant 25 ans. Puis Dieu lui dit qu'il devait sacrifier son fils. Celui qu'il avait attendu si longtemps, eh bien, il fut obéissant. Et nous, nous nous appelons les enfants d'Abraham? Si nous étions les enfants d'Abraham, nous aurions la foi d'Abraham. C'est la vérité. Or, le péché est venu dans le cœur des hommes et ils ne pouvaient plus s'approcher de Dieu. Alors, Dieu envoya son Fils unique qui versa son sang afin de créer la possibilité pour que nous puissions être purifiés et sanctifiés pour que Dieu puisse venir dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, on dit, j'appartiens à telle ou telle église. Mais quant à moi, je préfère appartenir à Dieu. Si vous dites que vous êtes des pentecôtistes, vous êtes seulement des pentecôtistes. Si vous dites être des baptistes, vous êtes seulement des baptistes. Mais nous devons être des enfants de Dieu. Nous nous sommes unis sous les têtes des différentes églises chrétiennes. Mais Dieu veut nous unir en lui-même. Oh, qu'ont fait les hommes! Vous ne pouvez pas rester neutre, cela ne va pas. Vous devez avoir soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas longtemps, le grand évangéliste Billy Graham a dit, et je crois qu'il est un vrai serviteur de Dieu. Nous étions tous ensemble dans une réunion, lorsqu'il s'est levé, il a pris la Bible et il a dit, « Quand je vais dans un pays, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Mais si j'y retourne une année plus tard, je n'en retrouve plus que 30. » Je me suis dit, « Ils se sont convertis à Billy Graham. Peut-être avons-nous aussi des convertis à Branham. » Mais si ce sont des convertis à Dieu, ils le demeurent pour toujours. Je pensais, Billy, j'aimerais ici dire quelque chose. Qu'il s'agisse d'Oral Roberts ou de tout autre évangéliste, nous allons et nous prêchons et les gens se repentent. Dieu leur pardonne vraiment et l'esprit impur s'en va. Mais que se passe-t-il après? On replace ces gens à nouveau dans des églises formalistes et mortes. Il est donc certain qu'ils ne peuvent pas poursuivre le chemin dans la vie, car on ne leur enseigne que des préceptes humains. Ceci concerne chaque dénomination. On les introduit en leur disant, « Voilà, dans votre assemblée ou église, vous devez apprendre le credo des apôtres. » Où se trouve-t-il quelque chose de semblable dans la Bible? Si les apôtres ont eu un credo, c'était celui-ci. « Repentez-vous !» Je pense que c'est Pierre qui a prononcé cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. « Repentez-vous !» et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. » Mais vous voyez, j'étais il n'y a pas très longtemps à la tombe de Mahomet. Là se trouve un cheval blanc. Il est là depuis la mort de Mahomet. L'on s'attend à ce que Mahomet ressuscite et qu'il monte sur le cheval blanc pour conquérir le monde. Ne savez-vous pas que le vrai et le faux sont si près l'un de l'autre? Ne savez-vous pas que selon Apocalypse 19, Jésus reviendra sur un cheval blanc? La séduction, ce n'est pas le communisme, mais bien les églises. Voyez la Russie, elle veut unir le monde entier sous une seule puissance. Eux aussi ont le désir d'une unité. Mais ils veulent cette unité dans le communisme, selon leur idéologie. Nous aussi, nous voulons tout unir sous l'ONU, sous une puissance militaire. Le monde n'est pas protégé, et il ne peut pas survivre sous une puissance militaire, mais uniquement par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Nous vivons et nous triomphons uniquement dans la puissance de Jésus-Christ. Voyez Nimrod. Il avait réuni tout en un. Qu'était cette tour? C'était un type de l'échelle que vit Jacob et qui allait de la terre jusqu'au ciel. Voyez les catholiques, ils veulent tout sous un seul régime. Les protestants veulent aussi tout sous un seul régime dans leur fédération d'église. C'est aussi faux et noir l'un que l'autre. Et tout cela vient du même diable menteur. C'est un fiasco total. Tout doit être réuni sous un seul chef, afin qu'un seul puisse être le conducteur. Les catholiques veulent tous les hommes sous un seul chef. Le pape, qui doit être le maître souverain. Les communistes veulent tous sous une seule tête. Ils veulent être les conducteurs. Ici, aux États-Unis, ils ont la même pensée. Tout cela vient du diable. Et le monde entier est sous la puissance de Satan. Ce sont les saintes écritures qui nous le disent. Ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. J'ai eu l'occasion de visiter des sites historiques où les trônes sont à 20 pieds sous terre. Tous les trônes humains tomberont. Tous les systèmes humains s'écrouleront. Mais Christ va régner éternellement. Cela est juste. Pourquoi ne voulez-vous pas être unis en lui? Vous ne pouvez pas demeurer neutre, voyez-vous? Lorsque vous êtes sauvé, vous devez prendre garde de ne point tomber de nouveau dans l'enseignement des doctrines humaines. Car ils disent, dans notre dénomination, tu dois obéir à nos prescriptions. Beaucoup d'entre vous le savent au sujet du baptême. Vous baptisez trois fois en avant, d'autres trois fois en arrière. Quel mélange! Ensuite, vous vous querellez encore. Cela prouve que c'est fait de main d'homme. Cela doit tomber. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les catholiques disent, ce fut Pierre. Les protestants disent, ce fut le Christ. Mais lisez donc une fois très lentement et très attentivement. Ce fut la révélation de Jésus-Christ. Sur cette révélation que Dieu donna à Pierre, non pas parce qu'il l'avait reçue dans une école ou un séminaire ou appris quelque part, mais bien parce que Dieu le lui avait révélé par le Saint-Esprit, « Je bâtirai l'église sur ce rocher, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et maintenant, qu'arrive-t-il lorsque les hommes qui se sont convertis ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Il arrive ce que Jésus a dit. Vous traversez les mers, vous parcourez les terres pour faire un prosélyte, mais vous faites de lui doublement un enfant de l'enfer. Il est plus facile aujourd'hui de parler de la parole de Dieu avec une prostituée ou un alcoolique qu'avec les soi-disant chrétiens. Oui, ils connaissent si peu de Dieu et de sa parole. Ils se conduisent d'une manière si misérable. Si quelqu'un est guéri, ils disent, « Oh, c'est juste de la psychologie. » Comment pouvez-vous croire si vous n'avez pas en vous ce que Dieu met dans les cœurs, avec quoi vous pouvez croire? Voyez la science ou votre propre connaissance. Vous pouvez douter de beaucoup de choses. Même par exemple que Dieu a donné Jésus-Christ et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais par contre, si l'Esprit de Dieu est en vous, il dit « Amen ». Parce que la parole de Dieu dit qu'il est le même et qu'il guérit. Et à cela nous disons « Amen ». C'est le Saint-Esprit qui a dicté et écrit cette parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens écoutent des hommes qui ont une grande instruction, mais ce qu'ils disent ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. Et cela me fait penser et ressemble à l'histoire de l'homme noir dans le Sud. Le chef lui dit, « Sambo, pourquoi es-tu si heureux ?» Il répondit, « J'ai réalisé la religion du cœur. » Le chef lui dit, « Mais ça ne se trouve plus aujourd'hui. » L'homme noir lui a répondu, « Tu aurais dû dire, de mes souvenirs les plus lointains, il n'y a plus rien. Mais moi, j'ai vécu cela. C'est encore ainsi avec Dieu. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit. Mais cela est simplement la preuve qu'ils ne l'ont pas reçu. Que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez être rempli de quelque chose pour pouvoir subsister. Il est possible que vous soyez rempli de beaucoup de choses. Peut-être que vous dites, « Oh, je suis rempli à ras-bord. » Non! Vous ne pouvez pas rester là. La Bible dit, tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu reçurent la marque de la bête. Écoutez, j'aimerais sonder où vous en êtes. Donc, tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu reçoivent la marque de la bête. La marque de la bête est un signe religieux. Vous pouvez être rempli de religion. Vous pouvez avoir adopté beaucoup de religions. Vous pouvez être un fanatique religieux. Vous imposez telle ou telle chose. Vous pouvez être rempli de bien des choses. Vous pouvez être rempli de méfiance de manière à refuser d'écouter la prédication. Et celui qui n'est pas un avec vous, vous ne voulez plus rien du tout avoir à faire avec lui. Où donc est l'amour de Dieu? Et vous, qui regardez la télévision, le programme de Arthur Gottfried le mercredi soir, au lieu d'être à la réunion, qu'arrivera-t-il avec vous? Votre propre vie rend témoignage de vous, de ce qui est en vous et de quoi vous êtes rempli. Vous pouvez être rempli de paresse. Vous êtes trop paresseux pour réagir. Vous n'avez pas besoin de rester ainsi, car Christ est mort pour vous sortir de là. Vous pouvez être rempli des dénominations, des thèses, mais Christ ne veut pas que vous soyez rempli de ces choses. Christ a préparé une place en vous, afin qu'il puisse y venir, que Dieu puisse habiter en vous, et que vous soyez rempli de Dieu. Et que se passe-t-il lorsque vous êtes rempli de Dieu? Vous êtes alors rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli de force, de paix, de joie, de longanimité, de patience, vous êtes rempli de joie. Si David disait « ma coupe déborde » dans l'Ancien Testament, il avait déjà une coupe qui débordait. Qu'est-ce que cela doit être alors dans le Nouveau Testament? Peut-être êtes-vous rempli d'idées d'hommes, d'églises, de thèses. Alors vous vous construisez une Babel qui doit tomber. Si vous frayez avec le monde moderne, si vous vivez dans le péché et avec les dénominations, alors vous tomberez. Il n'est qu'une seule chose, celle dont Dieu a décidé de remplir votre cœur. C'est le Saint-Esprit. Oh, comment devrions-nous vivre? Comment devrions-nous nous comporter en tant que fils et filles du roi? Nous devrions parler, nous habiller, toute notre vie devrait être celle de fils et de filles de Dieu, car nous sommes fils et filles de Dieu. Pour autant que nous nous accordions avec sa parole et disions « Amen » à son esprit. Nous voulons nous unir comme une seule âme, un seul esprit, comme frères et sœurs dans le Seigneur. Ceci peut être difficile pour un baptiste. Quant à moi, je me sens vraiment heureux dans mon cœur. Et si vous ne croyez pas au transport de joie, vous devriez juste être un peu autour de moi. Oh, je suis si heureux! Dieu aura une église unie! Loué soit son nom! Bientôt, elle sera unie, et ce n'est plus éloigné, notre but sera un, le même. Comme le grand temple de Salomon s'est construit sans que l'on entende un seul coup de marteau pendant 40 ans, c'est ainsi que Dieu les sort de toutes les églises, et bientôt la pierre angulaire va venir, le Saint-Esprit va tomber, et l'Église va s'unir. La pierre rejetée est la pierre angulaire. Vous, bâtisseurs de dénomination, pensez-y, la pierre angulaire est ici ce soir. Oh, comme c'est merveilleux, comme c'est grand, je sais qu'il est présent. Je désirerais que vous ressentiez ce que je ressens. Vous pensez peut-être que je suis drôle et que je ne sais pas où j'en suis. Je sais où je suis et ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Je ne peux plus continuer à prêcher. Les cloches de joie de la gloire sonnent dans mon cœur. Je sais que le temps vient. Oui, le temps vient où cela arrivera. Et c'est dans un avenir très proche. L'Esprit du Dieu vivant tombera à nouveau sur l'Église. J'entends déjà le bruissement dans le buisson. Quelque chose m'a dit, ne crains point, prédicateur. Un jour, ils seront un. Ils croiront. Il pourra y avoir des persécutions et encore d'autres choses, mais Dieu va rassembler son Église. Cela est aussi sûr que je suis sur ce podium. Et Christ sera la tête, pas une dénomination, mais Christ, la tête de tout croyant, sera la tête de l'Église. N'ayez pas peur de notre Alléluia, car cela veut dire « Gloire soit à notre Dieu pour toujours ». Il y a quelque temps, alors que je prêchais, une femme est venue vers moi, elle m'a dit, « J'ai quelque chose à dire de votre prédication. » Oh, lui ai-je répondu, il y a certainement beaucoup de choses à en dire. Vous glorifiez trop Jésus. Je lui ai dit, « Si j'avais 10 000 langues, je ne pourrais pas assez le glorifier. Il est la réalité. Vous le faites Dieu. » Et elle ajouta, « Ce n'était qu'un prophète. » Et je repris, s'il n'avait été qu'un prophète, il serait alors le plus grand séducteur du monde. Non, il était le Dieu des prophètes. Elle répartit, vous êtes bien fondé, vous croyez à l'Écriture. Je répliquais, si l'Écriture le disait, alors oui. Puis elle ajouta, dans Jean chapitre 11, Jésus se rendit sur la tombe de Lazare et il pleura. Je repris, madame, est-ce là le passage de l'Écriture sur lequel vous vous appuyez pour prétendre que Jésus n'était qu'un homme? Votre argument ne veut rien dire. Car il ne démontre pas s'il était Dieu ou pas. Vous ne voyez que l'homme qui pleurait là. Mais lorsqu'il a resserré ses épaules et qu'il a crié « Lazare, sors !» alors le mort reconnut la voix de son maître et il sortit du tombeau. C'était Dieu qui parlait à un homme. Il était les deux à la fois, Dieu et homme, en une seule personne. Lorsqu'il chercha du fruit à manger sur l'arbre et qu'il n'en trouva pas, il était un homme. Mais lorsqu'il nourrit 5000 personnes en une seule fois, il était Dieu. Et le jour où il se trouvait sur le bateau, il était fatigué, il se coucha. Même les vagues ne le réveillèrent pas, 10 000 démons avaient juré de le noyer. Mais lorsqu'il s'est levé et ordonna à la tempête de s'apaiser et de faire silence, il était davantage qu'un homme. Oh, soyons unis sous sa puissance. Vous, hommes et femmes, il s'est écrié à la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il mourut en tant qu'homme, mais le matin de Pâques, il a prouvé qu'il était Dieu. Il parlait comme Dieu, agissait comme Dieu, vivait comme Dieu. Il était Dieu, il est Dieu. Comme il l'a dit, vivant il m'aima, en mourant il m'a sauvé, et un jour il reviendra. Oh, quel jour glorieux ce sera! Comme l'a dit aussi cet autre poète, Seigneur, ne passe pas devant moi, entends le cri de mon cœur, pendant que tu fais grâce aux autres, ne me laisse pas de côté, tu es toute ma consolation, tu es mon tout, qui ai-je au ciel ou sur la terre, si ce n'est toi seul? Il bâtira son église, il l'unira, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen! J'aimerais que vous vous unissiez sous la puissance du Dieu vivant et que vous disiez « Amen » à toute parole de Dieu. Je crois que Dieu peut témoigner dans une réunion de guérison divine comme vous ne l'avez encore jamais vu. Jésus est ici, le roi est ici. Beaucoup parmi vous, prédicateurs de dénomination, vous regardez à ceux qui poussent des cris de joie. Vous êtes animés de la même pensée qu'avait Balaam. Oh, vous dites, un prédicateur pentecôtiste est parti avec la femme d'un autre. Oui, mais votre propre péché, les journaux l'ont eu. Vous le savez, les péchés de bien des personnes sont dévoilés déjà ici-bas, les autres le seront seulement là-bas. Mais ce que je désire, c'est la force unificatrice du Saint-Esprit. Toutes les autres choses, vous pouvez les avoir. Comme l'a dit ce compositeur de chant, tout salut dans la puissance du nom de Jésus. Les anges rendent hommage, se prosternent disant, apportez le diadème royal et couronnez-le comme Seigneur sur toutes choses. Unis sous une seule tête, Dieu dans un but, le royaume de Dieu. Oh, comme c'est merveilleux, comme j'aime le voir. Sa glorieuse puissance est ici maintenant. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de vous avancer dans la ligne de la prière. C'est Dieu qui va vous appeler depuis cette estrade. Je crois que le roi est au milieu de nous. Balaam regardait au loin, il ne vit pas le rocher frappé, le serpent d'airain élevé. C'est ainsi aujourd'hui avec l'Église. Ils sont incirconcis de cœur et d'oreille. Ils ne voient pas que Christ a son Église, où Dieu agit par des signes et des miracles surnaturels. Un cœur est une âme. Peu importe d'où vous venez, méthodiste, baptiste, qui que vous soyez, nous voulons nous unir sous un roi, Jésus-Christ. Vous, presbytériens, mennonites, qui que vous soyez, Jésus-Christ est ici. Qu'il vous prouve maintenant que je vous ai dit la vérité. Combien parmi vous sont-ils malades, souffrent et désirent-ils la prière? Croyez-vous que l'Esprit de Christ, qui a été percé par les clous, est ici? Laissez-le entrer dans votre cœur. Il est le roi! N'écoutez pas ce que dit un évêque, écoutez ce que dit le roi. Croyez sa parole. Il est le même roi qui cheminait en Galilée et lui dire, « Es-tu le roi des Juifs ?» Il répondit, « Vous le dites. » Maintenant, commençons par ce côté. Vous qui êtes malade, croyez-vous Dieu? Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous que je le représente comme son prophète? Comme le font les autres prédicateurs. Quoique je n'ai pas fait d'études et je suis juste un homme saint, mais j'ai lu son livre. Et si je ne connaissais pas si bien son livre, l'auteur du livre, je le connais très bien. Et il me révélerait déjà assez le livre. Madame, vous qui êtes assise là, Si vous croyez, vous pouvez être guéri. Et la maladie de femme que vous avez ne vous tourmentera plus. Votre mari est assis juste derrière vous. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Vous, monsieur, vous souffrez de l'estomac. Est-ce exact? Alors levez vos mains. Oh, le roi est au milieu de nous. Il disait, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Qui a-t-il de ce côté? Croyez-vous? Et vous sur les tribunes, ayez foi en Dieu. Et qui a-t-il avec cet homme et qui a ouvert son col? Vous aviez la tête inclinée pour la prière. Nous allons voir si Dieu va révéler quelque chose. Vous, vous allez en être le juge. Vous priez pour votre nez. Vous avez une grosseur dans le nez. Est-ce exact? Alors faites signe de la main. Vous êtes guéri dans le nom du Seigneur. Et qui a-t-il avec vous, monsieur, qui êtes assis à côté de lui ici, dans la deuxième rangée? Vous ne voulez pas la prière pour vous-même, mais pour quelqu'un d'autre. La personne n'est pas d'ici. Croyez-vous que Dieu va révéler de qui il s'agit? Vous avez touché quelque chose. C'est le Seigneur que vous avez touché. Vous priez pour votre femme. Elle a beaucoup de tension. Et si c'est juste, levez votre main. Merci. Croyez, si vous pouvez croire, vous pouvez obtenir ce pourquoi vous priez. Oh, comme c'est merveilleux! Où que vous soyez, commencez à croire. Le roi est au milieu de nous, l'Esprit de Dieu. Je peux seulement vous dire comme il me le montre. Jésus a dit, si tu peux seulement croire, tu verrais la gloire de Dieu. Voyez, une femme toucha son vêtement et elle fut guérie. Puis il la trouva, car il ne la connaissait même pas. Alors il lui dit ce qu'elle avait et aussi qu'elle était guérie. La Bible dit, il est le même. Si vous pouvez croire, il est certainement le glorieux Je suis. Là se trouve un homme qui vient de se gratter l'oreille. Que pensez-vous? Me croyez-vous être son serviteur? La lumière est au-dessus de vous. Allez-vous me croire si Dieu révèle quelle est votre difficulté? Quelqu'un appelle. Il est dur d'oreille. Il ne va pas rester dur d'oreille. Mais il n'a pas que cela. Il a également de l'asthme très grave. Si bien que le cœur est inondé, il s'arrête presque de battre. Vous n'êtes pas de cette ville. Non, vous n'êtes pas d'ici, mais d'une autre ville. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu va vous délivrer? Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Venez donc jusqu'ici, s'il vous plaît. Courbez vos têtes. L'homme dit, je crois que Jésus a la même puissance aujourd'hui que lorsqu'il était sur la terre. Eh bien, prions. Ô Dieu, béni éternellement, nous ne prions pas pour des miracles. Nous prions pour la miséricorde et la grâce. Fais miséricorde à cet homme. Chasse hors de lui l'esprit méchant et rends-lui son oui. Depuis quand étiez-vous ainsi? Une année et demie? Maintenant, il vous a aidé. Tout est en ordre. Vous pouvez retourner à Franklin dans l'Ohio. Votre nom est Monsieur Wesley Muller. Votre âme est partie. Vous avez retrouvé votre oui. Oh, il peut même m'entendre murmurer. Oh, combien c'est grand. Que pensez-vous, vous qui vous trouvez juste à côté de lui? Oui. Vous souffrez des reins et aussi du cœur. Vous venez également de Franklin. C'est en ordre. Madame Becker, levez-vous. Vous êtes guérie dans le nom du Seigneur Jésus. Maintenant, si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles. Croyez-vous? Croyez en Dieu. Il est ici. Il est merveilleux. Il est glorieux et puissant. Tout au fond, je vois une femme avec le bras levé, tenant un mouchoir. La lumière est au-dessus d'elle. Vous souffrez du gros intestin. Vous aussi, vous n'êtes pas de cette ville, mais de Hamilton, Ohio. Votre nom est Madame Henriksen. Allez à la maison. Vous êtes guérie dans le nom de Jésus. Oh Dieu, Dieu soit remercié. Et que pensez-vous, madame assise juste derrière elle, pendant que vous essuyez vos larmes, vous aussi vous avez touché le Seigneur. Croyez-vous que vous êtes guéri de votre mal aux intestins? Recevez-le, Jésus-Christ vous a guéri, si vous pouvez le croire. Et vous qui êtes d'ici, que pensez-vous? Vous souffrez du cœur, vous venez de Lisbon, Ohio. Maria, si vous croyez, vous pouvez rentrer chez vous, guéri. Levez-vous donc. Oh, gloire soit au Seigneur. La femme qui est assise ici est malade des nerfs. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Posez votre main sur la femme assise à côté de vous. Elle souffre du diabète. Et la femme assise à son côté, croyez-vous de tout votre cœur, vous souffrez du froid et des nerfs. Croyez-vous maintenant toutes les trois que Dieu vous a guéri? Vous pouvez l'obtenir. Alléluia! Le roi est au milieu de nous, le même roi, Jésus. Et bien des rangées en arrière, presque au fond, est assise une femme à côté de deux femmes noires. C'est la troisième depuis le couloir. Vous avez comme un rhume dans la tête, une grippe, et la femme noire à côté de vous a des varices. Croyez-vous, vous, cette dame de couleur, que Dieu va vous guérir? Vous pouvez obtenir la guérison si vous croyez. Et cette femme noire à côté d'elle souffre de l'estomac. Si vous pouvez croire, vous pouvez avoir la guérison. Vous tous qui êtes ici, je vous prie de croire. Que sommes-nous? Unis sous une grande puissance royale, Jésus-Christ, et le Christ est ici. Combien parmi vous, dont le cœur a bien des doutes et de la superstition, désirent consacrer leur cœur entièrement à Christ afin d'être unis à lui? Amen! Combien désirent que le monde, le péché, toute incrédulité, toute dénomination avec ceux qui s'y trouvent, quitte votre cœur? Oh, remerciez soit le Dieu vivant. Levez-vous, s'il vous plaît. Oh, un moment, j'ai vu quelque chose. Madame, vous qui venez de vous lever ici, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Vous avez une complication dans votre côté. Votre mari se trouve ici sur la civière. Ce monsieur, c'est un cancer qui vous tue. Si vous restez couché là, vous allez mourir. Voulez-vous recevoir ma parole comme étant la parole de Dieu? Alors, levez-vous, prenez votre civière et allez à votre maison. Il se lève, c'est en ordre, et vous tous les autres, nous sommes maintenant unis sous Jésus-Christ, sous la puissance du Dieu vivant. Levez-vous tous maintenant et rendez gloire à Dieu. Alléluia, Jésus-Christ est ici maintenant.